Chapitre 4. La plus jeune des deux serveuses, celle en kimono bleu ciel à lobby démodé, tira le paravent et entra dans la pièce avec un plateau de bière et de saké.
« Osake onegai shimasu !»
dit le père de Kenji en présentant sa tasse. Elle lui servit du saké et Kenji but une gorgée de bière. L'autre femme revint avec les hors-d'œuvre, dont un crustacé baignant dans une sauce claire. Kenji ignorait de quoi il s'agissait. Il n'avait pas souvent pris de repas à la japonaise depuis son départ de Kyoto.
« Kampai !» dit-il en trinquant. « Merci, père. Je suis très honoré de dîner ici en votre compagnie. »
Le Kicho était le restaurant le plus renommé de la région de Kansai, pour ne pas dire de tout le Japon. Il était aussi très onéreux, car ici les traditions de service personnalisé, de salle à manger individuelle et de plats ne comportant que les meilleurs ingrédients avaient été conservés. Chaque mets était un régal, tant pour les yeux que pour le palais, et quand M. Watanabe l'avait invité, son fils n'avait pas pensé que ce serait au Kicho. Ils parlèrent de l'expédition vers Mars.
« Combien de Japonais y participent ?»
demanda M. Watanabe.
« Un bon nombre. Près de 300, je crois. Seule l'Amérique sera représentée par un contingent plus important.
Connais-tu d'autres colons japonais ?»«
Deux ou trois. Yasuko Horikawa, qui a fait un bref séjour dans la même classe que moi au collège de Kyoto. Vous devez vous la rappeler. Une fille avec des dents saillantes et d'énormes lunettes. »
N'est-elle pas venue à la maison, le soir où Keiko nous a donné ce récital?
C'est possible, mais je ne garde de cette soirée que des souvenirs de Keiko,
précisa Kenji en riant. Monsieur Watanabe termina son saké et la serveuse agenouillée dans un angle de la pièce se leva et vint remplir sa tasse.
Kenji, j'avoue que tous ces criminels m'inquiètent,
dit Monsieur Watanabe. Après le départ de la jeune femme.
De quoi parlez-vous, père?
J'ai lu dans un magazine que l'ASI a fait appel à des centaines de détenus pour peupler la colonie Lowell. Tous ont eu une conduite exemplaire pendant leur détention, et ils possèdent d'indéniables capacités, mais était-il indispensable d'avoir recours à des repris de justice?
Kenji prit le temps de boire une gorgée de bière avant de répondre.
Pour être franc, le recrutement nous posait de sérieux problèmes. Les volontaires étaient peu nombreux et les médias sabotaient nos efforts. À l'époque où nous sollicitions des dépôts de candidature, la presse et la télévision développaient le thème de l'abandon des colonies martiennes un siècle plus tôt. Les postulants en puissance craignaient de subir le même sort. Nous étions par ailleurs confrontés à une crise financière. C'est la réduction draconienne de notre budget qui nous a poussés à recruter des prisonniers modèles. Leurs salaires sont ridicules, mais ils seront des citoyens à part entière dans la colonie et ils bénéficieront d'une amnistie à leur retour sur Terre.
Kenji interrompit ses explications. Une serveuse leur apportait de darnes de poisson bouilli disposées sur un lit d'algues. Monsieur Watanabe en saisit une avec ses baguettes et la mordit.
« Oishi, des sous !»
commenta-t-il sans regarder son fils. Kenji en fit autant, puis regarda derrière son père le magnifique jardin auquel le restaurant devait une partie de sa célébrité. Un ruisseau au cours brisé par une cascade miniature serpentait entre une demi-douzaine d'arbres nains. Lors d'un repas japonais traditionnel, l'invité d'honneur était installé face au jardin et M. Watanabe avait insisté pour lui laisser cette place.
L'offre a-t-elle séduit les Chinois ?
Seulement une poignée, qui viennent de Singapour et de Malaisie. Les gouvernements chinois et brésiliens ont interdit à leurs ressortissants de postuler. C'était à prévoir de la part du Brésil, qui est pratiquement en guerre contre le CDG, mais pas de la Chine. Il est vrai qu'on ne sort pas facilement d'un siècle d'isolement.
Cette nation a été durement éprouvée par le grand chaos. Les étrangers ont retiré tous leurs capitaux du jour au lendemain, et son économie s'est aussitôt effondrée.
Nous avons recruté une centaine de Noirs africains et quelques Arabes, mais la plupart des colons viennent des pays qui apportent une contribution substantielle à l'ICI.
Kenji était embarrassé. Depuis leur arrivée, il n'avait parlé que de lui et de ses activités. Il interrogea son père sur son travail à l'International Robotics. Monsieur Watanabe avait été nommé au poste de PDG et rayonnait de fierté lorsqu'il se référait à son entreprise, une fabrique de robots leader en ce domaine qui figurait parmi les 50 plus grandes sociétés mondiales.
« J'aurai 62 ans l'année prochaine, » dit Monsieur Watanabe, que le saké rendait prolixe. « Je comptais prendre ma retraite, mais Nakamura affirme que ce serait une erreur, que la compagnie a encore besoin de moi. »
Quand on leur servit des fruits, la conversation avait à nouveau pour thème l'expédition. Kenji précisa que Nai et la plupart des autres Asiatiques qui embarquèrent à bord de la Pinta et de la Niña avaient été regroupés dans un centre de formation japonais. Il rejoindrait son épouse dès son départ de Kyoto, et 10 jours plus tard, les passagers de la Pinta prendraient une navette à destination d'une SOB, station en orbite basse, où ils s'accoutumeraient à la pesanteur avant d'embarquer à bord d'un autre appareil qui les conduirait à GEO-4, la station géostationnaire où la Pinta avait été assemblée et armée en prévision de la longue traversée jusqu'à Mars. La plus jeune des serveuses leur apporta 2 verres de cognac.
« Ton épouse est vraiment très belle, » dit Monsieur Watanabe. « J'ai toujours pensé que les Thaïlandaises étaient les plus jolies des femmes.
Sa beauté est également intérieure, et j'admire aussi son intelligence.
Elle maîtrise l'anglais à la perfection, même si ta mère trouve son japonais épouvantable.
Si Nai s'est adressée à elle dans notre langue, qu'elle n'a jamais étudiée, soit dit en passant, c'est parce que mère refusait de parler anglais pour la placer en position d'infériorité. »
Mais Kenji se reprit et dit à son père
« Gomen nasai. »
Monsieur Watanabe but une gorgée de cognac.
« Ne nous reverrons pas avant au moins 5 ans, Kenji. J'ai beaucoup apprécié ce dîner et notre conversation, mais il reste un sujet dont je voudrais t'entretenir. Ce n'est pas par simple curiosité que je m'intéresse aux criminels qui peupleront la colonie martienne. Nakamura-san est passé me voir pour m'annoncer que la candidature de son fils avait été rejetée. Il souhaiterait que tu interviennes en sa faveur. »
Ce fut comme si la foudre venait de s'abattre sur Kenji. Il avait jusqu'alors ignoré que son ex-rival s'était porté volontaire.
« Je n'interviens pas dans la sélection des détenus. Cela relève d'un autre service. »
Monsieur Watanabe attendit un moment avant de déclarer
« Nous savons que ce refus a été opposé par un psychiatre, le docteur Richmore, qui pense que malgré sa conduite irréprochable, Toshio n'est toujours pas conscient de la gravité de ses actes. Je crois que c'est toi qui as recruté ce médecin néo-zélandais. »
Kenji était surpris. Son père avait mené des recherches intensives.
« Mais pourquoi ?»
se demanda-t-il.
« Quelle est la raison de tant d'intérêt ?»«
Nakamura-san est un des piliers de notre société. Nous lui devons de nombreuses innovations qui nous ont permis de devenir les leaders dans notre domaine. Mais il a perdu de son efficacité depuis l'arrestation de Toshio. »
Monsieur Watanabe se pencha pour ajouter «
Nakamura-san manque désormais de confiance en lui. Cet homme et son épouse vont rendre visite à leur fils une fois par mois, ce qui leur rappelle constamment le déshonneur qui s'est abattu sur leur famille. Si Toshio partait pour Mars, il est possible... »
Kenji était irrité et choqué par la démarche de son père. Il allait répondre qu'il la trouvait inconvenante quand Monsieur Watanabe ajouta
« C'est également très pénible pour Keiko et sa fille. » Tous les 15 jours, elles prennent le train pour Ashiya. »
Kenji sentit sa gorge se serrer. Il s'imaginait Keiko, brisée et honteuse, qui conduisait sa fille de 7 ans jusqu'au parloir des quartiers de haute sécurité pour lui permettre de voir son père.
« Je me suis entretenu avec Keiko la semaine dernière, »
disait Monsieur Watanabe.
« Elle a repris espoir quand je lui ai promis de te demander d'intercéder pour son époux. »
Kenji fixa son père, conscient qu'il accepterait en dépit du caractère choquant de cette requête.
Vous pourrez dire à Nakamura-san que je téléphonerai dès demain au docteur Ridgemore.
Cette intuition était-elle fondée?
Si je me trompe, je ne perdrai qu'une heure, 1 heure et demie au plus.
Pensa Kenji, comme il priait sa famille réunie autour de Fumiko et de ses filles, de l'excuser. Il sortit et courut vers les collines. Le soleil se coucherait dans environ 1 heure.
Elle sera là,
se dit-il.
C'est mon unique chance de lui faire mes adieux.
Il entra dans l'ondo du temple d'Anrakuji. Keiko venait souvent se recueillir devant l'autel dédié aux nonnes bouddhistes du XIIe siècle qui s'étaient suicidées quand l'empereur Gotoba leur avait ordonné de renoncer aux enseignements de Saint Onen. Mais elle n'était ni dans le bâtiment, ni à l'orée de la forêt de bambou où avaient été enterrées les deux saintes.
Keiko n'est pas venue,
se dit-il.
Elle se croit déshonorée.
Mais peut-être l'attendait-elle dans le cimetière d'Onen-in, là où il lui avait annoncé 17 ans plus tôt que sa famille allait quitter le Japon. Il gravissait le sentier du temple lorsqu'il discerna loin sur sa droite la silhouette d'une femme en robe noire à côté de la tombe de Junichiro Tanizaki. Il la reconnut, bien qu'elle fût de dos et estompée par le crépuscule, et il pressa le pas. Il ne s'arrêta qu'à 5 mètres d'elle.
« Keiko ? »
fit-il, le souffle court.
« Je suis si heureux !»
Elle se tourna vers lui, la tête basse, pour s'incliner telle une servante et dire avec formalisme.
« Watanabe-san, domo arigato gozaimasu. »
Puis elle se redressa, sans toutefois oser lever les yeux.
« Keiko, ce n'est que moi, je suis seule. « Regarde-moi. Ce serait inconvenant, mais je tiens à te remercier pour ce que tu as fait pour Aiko et pour moi. « Domo arigato gozaimasu »,
répéta-t-elle en inclinant à nouveau la tête. Kenji se pencha et tendit la main vers le menton de la femme pour relever son visage. Il fut troublé par sa beauté et choqué par ses larmes et sa tristesse.
« Keiko, je dois te laisser. » Je te souhaite de connaître un bonheur sans nuages. »
Elle s'écarta et fit une dernière révérence avant de s'éloigner sans lui adresser un regard. Kenji la suivit des yeux tant qu'elle n'eut pas disparu dans le lointain. Ce fut seulement ensuite qu'il remarqua la pierre tombale de Tanizaki et les 2 caractères kanji inscrits sur la stèle. L'un signifiait « vide » et l'autre « solitude ».